Et c'est marquant. Jacques Lavergne, bonjour. Alors, qu'est-ce que Naissez ? Bien, c'est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, je dirais presque malheureusement, puisqu'il s'agit de géopolitique, d'agitation du monde, une agitation faite de conflits de multiples natures, des conflits hélas la plupart du temps guerriers. Et nous allons le faire à travers l'excellent essai de Thomas Gomard, intitulé « Qui contrôle qui ?», sous-titré « Les nouveaux rapports de force mondiaux », publié par Taillandier Essai. Il vient de sortir en janvier 2026, c'est tout frais. 254 pages pour le prix de 20,90 €, mais vous ne les regretterez pas. Alors Thomas Gomard est connu, c'est un historien français qui a soutenu sa thèse de doctorat à l'université Panthéon-Sorbonne, qui s'intitulait à l'époque « Double détente, les relations franco-soviétiques de 58 à 64, 1900 bien sûr, couronnée par le prix Jean-Baptiste Durosel. Cet historien a rejoint en 2004 l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, dont il est le directeur depuis 2015. Il a créé une collection numérique trilingue concernant la Russie. Il enseigne les questions stratégiques à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, à l'Université Panthéon-Sorbonne, à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. Il est également membre du comité de la rédaction de la revue Études, dans laquelle il tient une chronique régulière consacrée à sa spécialité, c'est-à-dire à l'international. Et bien sûr, il a beaucoup publié des ouvrages tout à fait passionnants qui font référence, des ouvrages documentés à peu près un par an, donc c'est quelqu'un d'assez abondant. Alors son éditeur, la maison Taillandier, édition Taillandier, vieille maison d'édition française créée en 1901, qui avait succédé à une librairie Polo fondée en 1871, donc vous voyez que les racines sont très anciennes, un catalogue assez large, essais historiques, et puis essais portant sur le monde contemporain. La maison Taillandier appartient au groupe Artemis qui a 66,6% et plus précisément depuis 2015 à hein, monsieur Xavier de Bartilla, président directeur général de Taillandier. Ils ont un catalogue qui comprend un peu plus de 1000 titres avec une soixantaine de nouveautés par an, c'est pas mal. Voilà donc une maison d'édition ancienne, bien ancrée dans le paysage français, dans le paysage éditorial français. Alors nous revenons à l'essai de Thomas Gomard, qui contrôle qui. Je vous donne la quatrième pour que vous ayez une vision d'ensemble de l'ouvrage. Pour la guerre en Ukraine, alors ça commence par qui contrôle qui est le titre des livres. Hein. Pour la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine ou Volodymyr Zelensky. Pour la domination au Moyen-Orient, Benjamin Netanyahou ou l'Ayatollah Khamenei. Pour l'hégémonie en Asie, Xi Jinping ou Narendra Modi. Pour la guerre commerciale en Occident, Donald Trump ou Ursula von der Leyen. Pour le rapport à la vérité, le GIEC ou Fox News. Pour l'avenir de l'humanité, le Vatican ou les patrons de la Silicon Valley. Avec un regard original sur les mécanismes du pouvoir, l'auteur se penche sur les acteurs qui exercent une influence majeure sur nos sociétés, à long terme qui l'emportent, qui sont les vainqueurs et les perdants de la mondialisation. Quels récits façonneront les événements à venir ? Il est urgent pour les Européens d'apporter des réponses à la hauteur de la gravité du moment. Voilà pour ce qui est de la quatrième. Alors vous voyez, c'est une opposition en fonction de thème et une opposition toujours entre deux dirigeants, enfin une opposition ou au moins un parallélisme entre deux dirigeants qui sont les moteurs du thème choisi. La table des matières, alors nous y allons, la table des matières, page 253, voilà. Donc ça commence par un prologue, Munich et Saint-Denis, il faut lire pour comprendre, mais qui fait référence à la venue de Vance. Partie 1, la guerre, donc on va retrouver Poutine et Zelensky. Chapitre 2, Khamenei et Netanyahou. Bon, vous savez que Khamenei, l'actualité va très vite, mais il a rejoint les 50 000 vierges. Partie 2, le commerce, Narendra Modi et Xi Jinping, Donald Trump et Ursula von der Leyen. Et partie 3, le désir, le GIEC et Fox News, le Vatican et la Silicon Valley. Et on termine par un épilogue dont je vous donnerai quelques aperçus dans un instant. Alors, quelques lectures, comme d'habitude, au début et à la fin du livre, hein, c'est un choix toujours très arbitraire. Page 83, on est dans le chapitre qui oppose ou qui met en parallèle Khamenei et Netanyahou. En janvier 2025, l'Iran et la Russie concluent un partenariat stratégique qui ne contient cependant aucune clause d'assistance militaire mutuelle. Les frappes israéliennes et américaines sur l'Iran servent de test à sa solidité. Sans surprise, la Russie les condamne en se gardant toutefois d'apporter une aide militaire significative à l'Iran, qui se retrouve bien seul. Tous les pays des BRICS se tiennent prudemment à distance. Pour Moscou, il importe de préserver sa marge de manœuvre régionale et une posture de relative neutralité entre Téhéran et Tel Aviv, posture parfaitement comprise par Netanyahou, qui prend soin de ne jamais rompre avec Vladimir Poutine. Selon un diplomate israélien, les deux hommes auraient tracé la ligne rouge à ne pas franchir. Israël s'engage à ne pas livrer d'armes avancées à l'Ukraine, alors que la Russie s'engage à ne pas livrer d'armes avancées à l'Iran. Sous la houlette d'Ali Khamenei et Vladimir Poutine, les deux pays se voient comme des réponses nationales, viriles et guerrières aux démocraties mondialistes, efféminées et corrompues. Engagé sur une pente illibérale avant le 7 octobre, Benjamin Netanyahou entretient lui aussi une mobilisation militaire qui met en danger les principes moraux et institutionnels de la démocratie israélienne. En ce sens, ces trois hommes, un octogénaire et deux septuagénaires, se retrouvent dans une guerre permanente, indispensable à leur maintien au pouvoir, et une dénonciation des démocraties européennes qu'ils jugent arrogantes, décadentes et inefficaces. Chacun à leur manière, ils tentent de manipuler Donald Trump. À ce jeu dangereux, Benjamin Netanyahou surpasse Ali Khamenei. Fermez les guillemets et fin de citation, et vous voyez que la dernière phrase prend un sens très particulier, tout particulier, très pertinent, compte tenu de l'actualité actuelle. Et je vous propose une deuxième lecture, là on va sur la fin du livre, page 193, intertitre. Alors on est dans le chapitre « La ville, le Vatican et la Silicon Valley », un chapitre absolument passionnant, et l'intertitre c'est « L'IA, nouvelle religion, point d'interrogation ». Fin janvier 2025, sur Fox News, Vance invoque l'ordo Amoris Augustinien pour justifier la politique anti-immigration en déclarant que les chrétiens doivent, on le cite, d'abord aimer leur famille, puis leurs voisins, puis leur communauté, puis leurs concitoyens, et ensuite le reste du monde, fermez les guillemets. En réponse, le cardinal Robert Francis Prévost, futur pape, partage sur son compte X un article du National Catholic Reporter intitulé, ouvrez les guillemets, J.D. Vance a tort, Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres, fermez les guillemets. Intégraliste, le vice-président des États-Unis milite en faveur d'une démocratie symphonique qui conjuguerait étroitement foi et pouvoir. L'intégralisme américain n'est pas sans rappeler la pensée de Charles Maurras qui plaçait l'identité catholique avant la foi religieuse. Il réinvente une forme de gallicanisme, c'est-à-dire de spécificité américaine, auquel Léon XIV devra répondre. Fin de citation, encore une fois un chapitre tout à fait passionnant. conclusion de l'essai, la conclusion de l'essai est en réalité, en l'occurrence, un épilogue. Et comme le reste de l'ouvrage, c'est un moment particulièrement riche et dense. Alors, je ne vais pas le trahir, je vais juste vous donner trois citations. La première de celles-ci est la suivante. La situation d'ensemble pourrait se résumer ainsi. La Russie de Vladimir Poutine prétend combattre seul l'Occident collectif en détruisant l'Ukraine. La Chine de Xi Jinping cherche à prendre le contrôle du capitalisme global en restant communiste. Les États-Unis de Donald Trump versent dans l'illibéralisme pour maintenir leur prééminence. En ajoutant à ces trois noms ceux de Vladimir Zelensky, de Benjamin Netanyahu, d'Ali Khamenei, de Narendra Modi et d'Ursula von der Leyen, se forme un groupe dont la moyenne d'âge s'élève à 71 ans, à une époque où l'âge médian mondial est de 30 ans. Les relations au sein de ce club de septuagénaires orientent de manière décisive la politique internationale. Et plus loin, on va... Deux autres citations rapides. En examinant les relations entre le Vatican et la Silicon Valley, apparaît la question fondamentale de la dignité humaine à l'ère numérique, débat dans lequel la vieille Europe gagnerait à s'investir pleinement pour ne pas laisser l'écriture du futur aux intellectuels oligarques, de la tech et aux dignitaires du Parti communiste chinois. Et enfin, quasiment la dernière phrase. L'Europe doit se rappeler qu'elle fut le champ d'expérimentation des totalismes nazis et soviétiques, et à ce titre, prêter la plus vive attention aux signes d'asservissement, de servitude et de démesure qui apparaissent à nouveau sur son territoire. Cela requiert de la lucidité intellectuelle et du courage politique. Alors pourquoi faut-il lire ce livre ? Que nous apprend-il ? Je pense qu'il est inutile de revenir sur le fait que le monde est entré dans une période d'intense agitation et de profonde mutation. Ce qui fut ne sera plus. Les relations entre pays, entre continents, entre économies sont devenues infiniment plus complexes. Le monde se révèle tous les jours plus dangereux, plus incertain. Notre vieille Europe est à la traîne ou à tout le moins a besoin de prendre conscience de ses forces, elle en a beaucoup, et de ses faiblesses, nombreuses, mais qui ne sont pas rédhibitoires. Donc notre vieille Europe a besoin donc de se structurer, de s'organiser, afin de ne pas être vassalisée et de protéger ses valeurs qui sont loin d'être partagées sur la planète. L'essai de Thomas Gomard nous apporte des informations documentées, matière à réflexion également. Aujourd'hui, pour nous situer puis agir en conséquence, nous avons impérativement besoin de ce type d'ouvrage nous permettant de décoder et comprendre les relations qui se nouent sur une planète en pleine ébullition à tous les sens du terme si on pense à la question environnementale. C'était Essai marquant par Jacques Lavergne avec à la réalisation Sacha Gauchy. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.